Nous allons ouvrir nos Bibles comme nous l'avons fait vendredi soir et hier soir dans le premier livre des rois pour aborder toujours ce thème du découragement, non pas pour perpétuer nos découragements à force d'en parler, hein, mais pour avoir la victoire dans ces états d'âme profondément destructeurs. 1 Roi chapitre 19, je relis à partir du verset 1er cet extrait de l'histoire du prophète Élie. Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et l'y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange !» Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et il passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes, je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » Nous avons donc passé depuis avant-hier soir, beaucoup de temps à évoquer ce quatrième facteur de découragement. Nous en sommes, je le rappelle, pour ceux qui ne le réaliseraient pas, à notre septième réflexion, toujours sur ce même thème, puisque nous commencions avant-hier soir une deuxième partie de cette longue série consacrée à ce problème. Le sentiment de solitude. Tout simplement parce que le prophète Élie, dans son langage qui trahit son âme, l'homme se révèle dans ses paroles telles qu'est le fond de son cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et il y a, dans le langage d'Élie découragé, un petit mot qui apparaît déjà au chapitre 18 et que nous retrouvons à deux reprises dans le chapitre 19. « Je suis resté moi seul. » Nous avons donc longuement évoqué cette question de la vraie solitude d'abord. Parce que pour Élie, il s'agissait d'un sentiment de solitude. Mais c'est vrai, je le redis une fois de plus, ce matin, nombreux sont nos contemporains qui souffrent d'une vraie solitude. Et nous avons évoqué toutes sortes de cas de figure, de situations dans le monde moderne où vraiment l'homme, tout en étant tellement entouré, est terriblement seul. Et nous avons abouti finalement à cette remarque fondamentale que le vrai problème de la solitude se situe dans le cœur de l'homme. C'est au fond de son cœur que l'homme est seul. le mal du vide, l'angoisse du néant, cette peur du silence qui fait qu'alors même que l'homme aspire au silence et au repos, au même moment, il cherche à tout prix à l'éviter à cause de toutes ces voix intérieures qui montent et qui le culpabilisent à cause de ce cri de la conscience, cette voix intérieure que Dieu a placée au-dedans de nous et qui ne se tait jamais totalement. Et puis le grand message des Écritures est de pouvoir dire que Dieu est venu pour briser, supprimer nos solitudes. Dans la mesure où, bien entendu, un nettoyage sérieux est fait dans nos cœurs. Nous avons proclamé l'habitation, la demeure permanente et éternelle du Saint-Esprit dans la vie de celui qui se tourne vers le Christ. Mais le Saint-Esprit ne vient pas habiter une vie sur laquelle le sang de Jésus n'est pas passé. Le Saint-Esprit qui comble la solitude ne vient que dans un cœur purifié par le sang de Jésus. Nous avons vu comment le Seigneur Jésus a pris sur lui nos solitudes. Comment, lui qui n'avait jamais été seul dans toute l'éternité passée, a accepté volontairement de voir se briser cette unité d'équipe fantastique, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, pour se retrouver dans la solitude total, avec le poids de nos péchés, de manière à ce que nous ne soyons plus jamais seuls. Et je crois savoir que tout à l'heure nous aurons l'occasion de chanter ce cantique qui a été au cœur de notre réflexion. Et puis nous avons dit qu'à partir de là, je ne fais que résumer très rapidement. Nous avons des promesses extraordinaires de la part de notre Dieu. Nous ne serons plus jamais seuls. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous avons évoqué l'amour de Dieu qui est un amour éternel, qui ne fluctue pas, qui ne s'arrête pas pour reprendre au gré de nos hauts et de nos bas. Nous avons vu la présence de Dieu, force de l'apôtre Paul, dans les temps où il était abandonné de ceux qu'il avait amenés à la connaissance de Christ et d'autres amis, de collaborateurs. Puis nous avons vu cette peur de la solitude à l'approche de la mort, cette vallée de l'ombre de la mort, mais nous avons dit qu'il n'y a pas d'ombre sans lumière. Et que c'est parce que la lumière de Christ est jusqu'au bout, avec le croyant dans son pèlerinage sur la terre, que l'ombre de la vallée de la mort est chose possible. Et puis nous avons parlé de la solitude de celui qui a perdu l'un des siens, la veuve qui se retrouve toute seule, comme dit le texte, mais qui va prier, qui va persévérer dans la prière jour et nuit parce qu'elle met son espérance dans le Dieu de son salut. Elle n'est pas seule. Nous avons évoqué l'incrédulité et la tristesse qui peuvent nous laisser croire que nous sommes abandonnés. Nous avons parlé hier soir des pèlerins d'Emmaüs. Jésus était à côté d'eux. mais leur incrédulité, le fait qu'ils se soient arrêtés à la croix et qu'ils ne soient pas allés jusqu'à la résurrection. Ils étaient les disciples de la mort et du tombeau et c'est pour cela qu'ils étaient découragés. Nous avons dit que le péché non confessé crée un sentiment de solitude, d'abandon, de vide, alors même que le Saint-Esprit travaille pour que nous puissions réentendre ce témoignage intérieur qui nous fait nous écrier « Abba », c'est-à-dire « Papa ». Le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et c'est ainsi que la première remarque de Dieu à Élie, avons-nous dit, a été « Coucou, me voilà, tu n'es pas seul ». Même dans cette solitude du désert, puisque dans l'Ancien Testament, désert et solitude sont synonymes, je suis là. Ta solitude peut s'égayer, fleurir comme un narcisse. Des eaux peuvent y jaillir, des ruisseaux peuvent couler. Et nous avons parlé ainsi des anges de Dieu qui interviennent aussi dans la vie du croyant, comme ils sont intervenus dans la vie d'Élie. Quelle surprise! Lorsqu'une main a touché son épaule et que là, dans sa désespérance, il s'est éveillé, et un ange était là, qui l'invitait à se nourrir du repas préparé des mains de l'amour de Dieu. Hébreux chapitre 2, verset 14, ne sont-ils pas tous les anges des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Et puis enfin, et c'est sur cette partie que nous nous sommes beaucoup arrêtés hier soir, nous avons dit que nous ne pouvons pas être seuls tout simplement parce que Dieu donne aux solitaires une maison. Et le terme hébreu pourrait être rendu par « famille ». Dieu donne aux solitaires qui se tournent vers le Christ une famille. Le croyant est membre d'une grande famille. Dès notre conversion à Jésus-Christ, nous sommes intégrés à une grande famille. Nous devenons des frères et des sœurs dans nos rapports avec ceux qui sont animés du même esprit que nous, qui se fondent sur la même parole que nous et qui appartiennent au même corps que nous. Nous avons remarqué que ce terme se trouvait quelque 200 fois dans le Nouveau Testament. Puis nous avons souligné que nous sommes aussi des saints. Ah, il faudrait avoir du temps pour développer ce terme. Les saints. Nous avons tant de fausses conceptions sur ce que sont les saints. Vous avez remarqué que je l'ai prononcé au pluriel. Parce qu'il n'est jamais au singulier dans le Nouveau Testament lorsqu'il est utilisé comme nom. Quand il sert à qualifier en tant qu'adjectif, alors oui, mais pas comme nom. Toujours au pluriel. Le saint n'existe pas. L'idée d'un saint vivant dans la solitude est inconnue du Nouveau Testament. Et je le redis, je ne me lasse pas de vous répéter les mêmes choses, car pour vous cela est salutaire. Nous l'avons dit hier soir, nous le répétons, et avec force ce matin. Non, aux chrétiens Robinson Crusoe. Nous avons souligné ce fait que l'enseignement de Paul et la plupart du temps à la première personne du pluriel. Dieu ne veut pas s'adresser uniquement à nous individuellement. Et il faut dire que le français est tellement individualiste que lorsqu'il se convertit à Jésus-Christ, il lit tout dans les Écritures à la deuxième personne du singulier. Et Dieu est obligé de transformer notre mentalité pour que nous comprenions, que nous saisissions que la Bible se lit aussi à la première et à la deuxième personne du pluriel. L'enseignement des Écritures est adressé à une famille. Êtes-vous engagé dans une église locale? Vous direz, mais j'appartiens à l'église universelle et cela me suffit. Mais ce n'est pas biblique. Même l'apôtre Paul, qui était un itinérant, était membre d'une communauté locale qu'il retrouvait à l'issue de chacun de ses grands voyages missionnaires. Et avec laquelle il partageait son ministère. Est-ce que vous êtes membre d'une communauté locale? Ou est-ce que vous êtes de ces croyants, nous l'avons dit hier soir, qui butinent de fleur en fleur? C'est-à-dire de communauté en communauté. Ou encore qui considèrent l'Église comme le bon restaurant flunch où l'on va le dimanche, n'est-ce pas, pour se requinquer. Voyez-vous, il est des découragements dans nos vies, des états dépressifs qui sont précisément liés à notre négligence d'un engagement dans l'église locale. Nous ne sommes faits ni pour vivre notre christianisme solitaire, ni pour le vivre en itinérant d'une église à l'autre. Nous avons besoin de nous engager dans une église locale, d'y faire notre part, d'y vivre avec elle comme on vit dans sa famille, dans les bons et dans les mauvais jours. Et nous avons beaucoup souligné hier soir, et je le refais ce matin, parce que c'est l'occasion ou jamais, n'est-ce pas? C'est là que nous nous retrouvons, le dimanche matin, on est sûr d'avoir le maximum d'amis. Nous avons souligné fortement que le croyant est beaucoup plus attaqué par la puissance des ténèbres lorsqu'il néglige l'engagement dans l'église locale. Et que lorsque l'apôtre Paul écrivait à l'église de Corinthe que telle situation de désordre était absolument incompatible avec le caractère de sainteté de l'église locale, et que dans la mesure où tel croyant se refusait à accepter la discipline de l'église locale, alors qu'il vivait dans le péché, eh bien, il devait être, oui, dans certaines situations graves, livré à Satan. De quoi scandaliser les croyants que nous sommes, qui aimons tellement le flou dans le monde moderne et dans l'Église de notre temps. Vous vous rendez compte quel choc? Mais je suis sûr que les larmes coulaient et couvraient le parchemin sur lequel l'apôtre Paul écrivait ces choses. Mais il se devait de le faire. Et qu'est-ce que cela voulait dire, livré à Satan? Cela voulait dire que désormais, sans perdre le moindre amour pour lui, il devait être considéré comme ses païens et ses publicains. C'est-à-dire qu'il devait quitter cette protection, ce bouclier de l'Église, il devait être exclu. Et bien sûr, au fond du cœur de l'apôtre Paul, crier cette prière, mais Seigneur, à travers les situations difficiles qu'il va connaître, qu'il souffre tellement qu'il ne puisse plus supporter de rester hors de l'église locale, qu'il éprouve le besoin d'y revenir en mettant sa vie en règle avec toi. C'était ça le but. Et sinon, au moins que son âme soit sauvée. Quitter l'église locale, c'est quitter un bouclier protecteur qui est d'une importance capitale. Quand je pense à nos frères, à nos sœurs, qui vivent dans plus de la moitié du monde actuellement, qui est privé de liberté de culte, et qui font absolument tout au péril de leur vie pour s'associer à la communauté locale clandestine, qui savent qu'à n'importe quel moment, les agents, les policiers peuvent entrer comme ils le feraient ici si nous étions dans un de ces pays, n'est-ce pas, pour séparer les pères et mères de leurs enfants, les épouses de leurs époux, et parfois on ne se reverra plus, c'est fini. Et pourtant, malgré cela, parce qu'ils ont compris l'importance de l'église locale, ils viennent et ils reviennent. Vous êtes découragés, peut-être que Dieu voudrait vous dire ce matin, mon enfant, tu désobéis dans le domaine de l'église, tu butines. Alors tu ne vis pas dans cette communion de l'Assemblée qui est là pour t'aider, te rectifier, éviter que tu dévies, que tu partes à droite, que tu partes à gauche, et que tu aies un christianisme tout à fait excentré, excentrique, dangereux. Tu as besoin de tes frères, et tes frères ont besoin de toi. Et l'église locale, ce n'est pas le dimanche matin, mes bien-aimés seulement. L'église locale, c'est 7 jours sur 7. 24 heures sur 24. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir la réunionite. Nous devrions l'aborder, cette maladie, un peu plus loin, en évoquant la fatigue et le besoin de repos. Il ne s'agit pas de passer d'une extrême à l'autre et de mettre dans notre programme hebdomadaire une réunion tous les soirs. Mais de se placer devant le Seigneur en disant, mais Seigneur, quelle est ma place dans l'église locale? Quel est mon rôle? Quel est mon don? Je suis membre de ce corps-là. Et j'ai quelque chose à y apporter, pas simplement à y recevoir. Quand je traitais ce thème, dans mon dernier voyage aux Antilles, en Guadeloupe, et que j'abordais cette question de l'importance d'être lié à une communauté locale et d'y travailler, quelqu'un est venu me voir après le message pour me raconter l'histoire suivante. Il m'a dit, voyez-vous, ça s'est passé dans les jours écoulés. Un homme m'a eu un accident en coupant du bois et il se trouve qu'il s'est tranché un pouce. Alors très rapidement, on l'a amené à l'hôpital. Et quand il est arrivé à l'hôpital, les chirurgiens ont dit, écoutez, on voudrait bien faire quelque chose, mais où est le pouce? Alors on a rapidement, très rapidement, parce qu'il faut faire très très vite, envoyé quelqu'un sur le lieu de l'accident pour chercher le pouce. Et on a fouillé. Et on a interrogé, mais est-ce que vous n'avez pas vu le pouce? Jusqu'à ce que quelqu'un dise, oh, J'ai vu le chat passer par là. Sérieusement? Quand on vit un christianisme solitaire, c'est ce qui arrive. L'ennemi en profite. Et c'est pas un chat, c'est mieux, c'est un lion, nous dit la Bible. Oh, cette importance de vivre dans l'Église, avec l'Église. Posons-nous la question quant à nos découragements. Et puis je reviens à ce que nous avions dit en conclusion. Élie était peut-être seul, dans son style, sa vocation particulière. Mais il y avait d'autres croyants. Il y avait d'autres prophètes qui étaient différents de lui. Nous les avons énumérés. Abdias, Michée, Élisée, le futur prophète en puissance, les 7000. Et nous avons évoqué le danger de la solitude de nos exclusivismes, de notre sectarisme. Ce danger d'avoir une vision trop étroite du peuple de Dieu, là où d'autres ont une vision très élastique. Il ne s'agit pas non plus que l'église locale devienne un ghetto. Que nos locaux deviennent des bocaux. Et le découragement peut venir de notre exclusivisme, de notre sectarisme, d'une vision trop étroite du peuple de Dieu. Il y a des églises qui ressemblent à Élie, il y en a d'autres qui ressemblent à Élisée, d'autres qui ressemblent à Abdias, d'autres qui ressemblent à Michée, dont il est question un peu plus loin, qui n'a rien à voir avec le prophète dont la Bible porte, dont un des livres de la Bible porte le nom. Et puis nous avons dit attention à la solitude du légalisme, de l'orgueil spirituel. On peut se croire tellement grand, tellement haut, tellement saint, et être d'une rigidité telle que notre regard passe par-dessus nos frères. Et je prenais simplement l'image hier soir de la girafe qui aurait avalé un manche à balai. Et sans doute manquait-il un peu à Élie le regard de la grâce. Tellement il était marqué par l'état d'infidélité, d'apostasie du peuple de Dieu. Son regard était peut-être trop négatif. Ici, il vaut la peine de dire aussi qu'on peut faire le vide autour de soi par le mauvais caractère. Par les jérémiades continuelles, par les critiques qui n'en finissent pas, par l'agressivité, par la susceptibilité, par l'attitude distante et hautaine. Il y a des membres d'église qui sont constamment découragés et qui sont en train de dire constamment « Mais personne ne vient vers moi ». Je pense que nous devrions alors nous poser la question, mais pourquoi les autres ne viennent-ils pas vers moi? Et puis après tout, est-ce que je vais vers eux? Mais vous savez qu'on n'approche pas un hérisson sans prendre des précautions. Nous avons eu la joie, avant que les chutes de neige arrivent et recouvrent tout, d'avoir la gentille visite d'un hérisson dans notre jardin. Oh, c'est mignon! Et il est revenu 2 jours de suite, et il s'est promené, il a mangé, il a bu, puis on a pu le regarder en famille, gentiment. Et puis on s'est approché de lui pour le prendre en photo, et puis notre dernier, Emmanuel, qui a 6 ans, il avait envie de le caresser. Alors j'ai dit, mais fais attention, méfie-toi. D'une part parce qu'un hérisson, il paraît que ça a beaucoup de poux. Et puis d'autre part parce que ça kick.
ça pique.
Alors c'est vrai qu'il y a des croyants qui sont découragés parce qu'ils font le vide autour d'eux. Qui ne savent pas s'y prendre. Et qui font ce que disait Victor Hugo. Il y a des gens qui vous laissent tomber un pot de fleurs sur la tête du 5e étage et qui vous disent « Je vous offre des fleurs ». Et la question que Dieu nous pose ce matin est celle-ci, mais quel effort faisons-nous pour aller vers les autres et susciter la joie? Nous aurons l'occasion de parler justement d'un des autres facteurs du découragement d'Élie, à savoir ses frères. Mais nous le verrons sous un autre angle encore. N'ayez pas, n'entendez pas tout ce que nous pouvons voir et entendre grâce aux médias actuels. De plus, ils n'avaient pas de voiture, ni de train, ni de jet pour parcourir le pays, sortir au-delà. Nous avons les journaux, la radio, la télé, un courrier qui essaye de fonctionner à peu près bien. Je choisis volontairement la périphrase. Nous avons un grand avantage sur Élie. Et il importe que tout en étant très attaché à l'église locale, nous ayons une vision qui ne soit pas locale. À la fois être attaché à l'église locale et s'y engager, en être membre. C'est-à-dire se sentir responsable de la marche d'une église en disant si cette église a des problèmes, c'est ma faute aussi. Mais au même moment, avoir une vision large du peuple de Dieu. Si nous avons une vision trop locale, ça peut être profondément décourageant. Quand nous voyons un petit croissant de lune, est-ce que nous disons « Oh, je vois le petit croissant de lune ?» Non, nous disons « Tiens, la lune !» Remarquez. Parce que nous pensons que la lune, ce n'est pas uniquement le petit croissant. Le petit croissant de lune, c'est notre communauté locale. Et effectivement, notre communauté locale, elle fait partie de cette grande lune qui s'appelle l'Église universelle. Et il importe donc, pour éviter certains types de découragement, que nous élargissions notre vision de l'Église. C'est-à-dire que nous soyons présents en réunion missionnaire de l'Église pour savoir comment Dieu travaille dans le monde. Que nous soyons présents aux réunions de prière de l'Église. Pourquoi ? Parce qu'une bonne réunion de prière de l'Église, cette réunion dans laquelle on voyage beaucoup. On va dans tel pays, dans telle situation, on est informé de telle situation pour pouvoir prier. Nous avons le privilège de pouvoir voyager gratuitement par la prière. Et l'on voyage non seulement pour voir les besoins et les problèmes dans d'autres pays, mais pour voir aussi ce que Dieu y fait. Ceux d'entre nous qui avons participé à Mission France, vous ne trouvez pas que c'était une semaine pendant laquelle nous ne pouvions pas être découragés? Le travail débordait, mais nous étions heureux. Pourquoi? Parce que nous cessions d'avoir une vision simplement locale du peuple de Dieu. Et je suis sûr que même dans la région parisienne, une quantité de croyants dit « Tiens, c'est curieux, je ne suis pas aussi seul que je le pensais ». Vous ne croyez pas? Ah, je me souviens dans les réunions préparatoires de notre comité de Mission France. lorsqu'on évoquait le nombre de choristes qu'il fallait et de conseillers. C'est pas possible, jamais on ne réussira à rassembler autant de chrétiens. Est-ce qu'il y en a autant dans la région parisienne? Mais quelle joie de savoir que l'Église ne s'arrête pas au périmètre de notre communauté locale. Alors il importe de s'informer, de participer à des conventions, à des camps, à des congrès, d'accueillir dans l'Église, de pratiquer le jumelage, ce que vous faites. D'essayer justement d'embrasser cette vision d'une Église universelle. Oh, je ne vais pas le faire ce matin, je vais amener avec moi, mais j'étais incrédule au départ et je le reste, je ne vais pas commencer à vous raconter ce qui se passe en ce moment dans certains pays du monde, mais c'est extraordinaire. Je bénis Dieu pour un certain nombre de pays dans le monde où le nombre de nouvelles naissances est plus élevé que le nombre de naissances. Ouais, ça existe. Ça existe dans un certain nombre de pays du monde. Et je bénis Dieu pour les occasions qu'il m'a données de visiter certains de ces pays. Et de voir l'esprit de conquête de certaines églises. J'ai reçu cette semaine une lettre du pasteur d'une église de Madagascar, tout à fait au sud de l'île, une église que j'ai visitée, qui est une des rares églises libres, non reconnues par l'État, puisque le régime est marxiste là-bas. Et j'y ai vécu des moments extraordinaires dans cette église, très très pauvre. Nous étions 400 au culte. Et le pasteur de cette église vient de m'écrire une très bonne lettre, un homme de Dieu, un homme de prière, qui a vraiment une vision avec son église pour le travail dans tout le sud de cette île, tellement pauvre. Et il m'écrit entre autres, « Voici quelques centres ouverts lors de nos campagnes d'évangélisation dans le sud, avec leur distance de Tuléar, la ville dans laquelle je suis allé, et avec le nom de leurs évangélistes, de leurs bergers. » Des centres qui sont destinés à devenir des églises locales. Et tout cela à partir de cette église mère. Alors, accrochez-vous. Première église, premier centre en vue de fonder une église à 243 km de là. Deuxième centre à 238 km de là. Troisième centre à 158 km de là. Quatrième centre à 129 km de là. Cinquième centre à 135 km de là. Sixième centre à 288 km de là. Et il y en a près d'une dizaine comme ça. Et ce sont des centres dans lesquels il va y avoir tout un travail d'évangélisation qui est déjà en cours, mais qui est arrêté pendant certaines périodes parce qu'il fait très chaud là-bas en ce moment. Et il est ajouté simplement, sans du tout un esprit d'appel de fond, quoi que ce soit, parce que j'ai appris à connaître ce frère. Pour le moment, les dates fixes pour se déplacer ne sont pas prévues, faute de voitures à la disposition de l'évangéliste. Parce que là-bas, les voitures, elles ne sont pas en randonnion sur un magnifique parc à auto comme ici. On les compte. Mais quelle vision! Oh, avoir une vision élargie du peuple de Dieu. De quoi nous encourager? Vous ne croyez pas que l'apôtre Jean sur son île à Patmos, lorsqu'il était condamné aux travaux forcés, vous ne croyez pas qu'il a été puissamment encouragé au travers de toutes les visions qui lui montraient la multitude entourant le trône de Dieu? Oh, que dans nos moments de découragement, nous nous souvenions que le peuple de Dieu, ce n'est pas uniquement notre petit coin. Il me souvient d'une église qui m'avait invité il y a quelques années, je vais d'ailleurs y retourner cette année, au Mans, dans la ville du Mans. Et cette église m'avait invité pour une série de réunions avec une soirée d'évangélisation dans une grande salle au centre de la ville du Mans le samedi soir. Et ce petit noyau avait travaillé vraiment de tout son cœur pour essayer d'amener le plus grand nombre de personnes à cette soirée d'évangélisation. Et nous étions ce soir-là devant la salle, prêts à y entrer. Et il y avait un des jeunes membres de l'Église converti une année plus tôt, mais qui avait connu une métamorphose fantastique dans sa vie. Il en était d'ailleurs à sa quatrième lecture systématique de la Bible, alors qu'un an auparavant, traumatisé par un grave accident et par une tentative de suicide, il annonnait en lisant comme un petit enfant. Métamorphosé. Et il avait donné du temps pendant toute cette semaine. Et il avait prié en disant « Oh Seigneur, sauve !» Et il comptait sur le trottoir à l'entrée le nombre de personnes qui entraient dans la salle et il essayait de les identifier. Avec l'orateur, moi-même, nous étions finalement 10. Et sur les 10, 9 étaient des membres de l'Église. Et je me souviendrai toujours de cet ami, Jean-Luc, qui pleurait, qui ne comprenait pas. Il pleurait. Après tout ce travail, une seule personne était là. Ce qui m'a réjoui, c'est que ça a été la seule réunion de tout mon ministère où il y a eu 100% de réponse à l'appel. Cet homme s'est converti à Jésus-Christ ce soir-là et s'est engagé dans l'Église, a été baptisé depuis et est engagé dans son Église. Et je me souviendrai de Jean-Luc lorsqu'il a, il a réalisé que quelqu'un avait levé la main, que c'était justement ce seul. Combien son visage s'est mis à rayonner de joie. Mais mon ami Jean-Luc avait besoin d'une vision élargie du peuple de Dieu. Et il l'a eu. Parce qu'il s'est engagé ensuite avec OM, il a pu voir l'œuvre de Dieu un peu partout. Et je l'ai retrouvé ensuite engagé dans l'œuvre de Dieu. Quelle est notre vision? Voyez cet équilibre dans les Écritures. À la fois être engagé dans une église locale, esprit âme et corps, s'y donner, sans négliger les siens. Mais au même moment, cultiver par tous les moyens possibles une vision large du peuple de Dieu, de l'Église de Jésus-Christ, sans qu'elle englobe pour autant ceux qui se disent et ne sont pas. Alors ma conclusion, eh bien c'est pour dire qu'Élie a finalement rompu avec sa solitude malsaine. Il a avoué son sentiment de solitude, il l'a dit, et il faut le dire, « Je suis seul, Seigneur !» Et vous remarquez que Dieu le lui a fait répéter. Cela fait partie de la thérapeutique de guérison. Dieu veut que nous disions clairement les choses. « Seigneur, je me sens seul, je suis seul !» Répète, « Je suis seul !» Et vous savez que souvent, quand on répète les choses, on a déjà la moitié de la réponse. Parce qu'en les disant, il y a une petite voix dans notre cœur qui dit « Tu as tort ». Il faut parfois que nous nous entendions dire à haute voix certaines choses pour que nous cessions d'y croire. Alors il a avoué son sentiment de solitude et Dieu a pu lui ouvrir les yeux sur les richesses qu'il n'avait pas vues. Sur ses frères anonymes, sur Élisée, son successeur. Et puis Élie est reparti et a trouvé Élisée qui l'a accompagné jusqu'à son enlèvement. Et croyez-moi, Élie n'a plus jamais été seul. Parce qu'Élisée, en tant qu'apprenti, avait le don de coller continuellement à Élie. Au point qu'Élie lui disait, écoute, laisse-moi, je vais tout seul. Élisée lui disait, non, je reste avec toi. Comme si Élisée se souvenait de la dépression qu'il avait faite quelques années auparavant. Je ne te quitterai pas. Élisée, chapitre 2 du deuxième livre des rois. Elle est fantastique, cette histoire d'Élie et d'Élisée. Ils collent. On fait équipe tous les deux jusqu'au bout. Donc, importance de ne pas négliger l'église locale, le partage avec des frères et sœurs, partage des joies et des fardeaux. Importance de refuser le sentiment de solitude, parce que c'est un mensonge de la puissance des ténèbres. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit sont là. Les anges sont là. L'église locale est là. Et l'église universelle est là, elle aussi. Est-ce que vous croyez que nous avons encore à excuser des découragements qui seraient liés au sentiment de solitude? Dieu veuille que simplement ces trois messages nous aient permis de rectifier le tir. De manière à ce que notre vie soit plus équilibrée. Nous allons nous arrêter là et nous aborderons cet après-midi la cinquième cause, la fatigue. Mais ça ne pouvait pas être pour ce matin. Au cours d'un culte, on ne parle pas de fatigue. Nous nous inclinons dans la prière. Seigneur, tout d'abord, un grand merci pour l'Église. Merci pour notre salut qui nous a intégrés à ton corps. Nous faisons partie d'une grande famille dont toi, Seigneur Jésus, tu es la tête. Nous te bénissons pour les avantages, les privilèges qui sont les nôtres d'appartenir à cette famille. Et nous te remercions parce que tu nous veux responsables et engagés dans l'expression visible de l'Église universelle qui s'appelle l'Église locale. Au même titre que tes disciples de jadis devenus apôtres étaient membres d'Église locale. Et Seigneur, nous voulons te prier les uns pour les autres. Et vraiment te demander de nous donner, et tu le fais par l'Esprit qui habite en nous, ce désir d'obéissance, afin que nous ne butinions pas, que nous ne considérions pas l'Église locale comme un restaurant, une pompe à essence, mais que nous y trouvions vraiment notre place et que nous nous y engagions en tant que membres du corps local. Seigneur, aide-nous à identifier les raisons de nos découragements. Et si dans notre cœur ce matin, tu as précisé la chose, nous le savons maintenant. Accorde-nous avec un cœur droit de reconnaître, de confesser, de quitter le péché et de changer d'attitude. Nous te bénissons pour ta grâce qui nous rend capables de le faire. Et nous te bénissons parce que nous nous rappelons que ton amour pour nous ne cesse jamais. Seigneur, merci. Sois loué. Sois béni. Merci pour tes encouragements et pour ta répréhension qui se veut encouragement, pour que nous allions plus loin avec toi. Nous te louons, nous t'adorons, nous te bénissons de tout notre cœur. Ô notre Père, toi qui as rompu, brisé nos solitudes en t'approchant de nous en Jésus-Christ.